Objectif Santé, Karen Taïeb.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver en direct après ce confinement. Et voilà, je suis ravie de commencer cette nouvelle série d'Objectifs Santé avec le professeur Gilbert Deray. Bonjour.
Bonjour.
On vous a beaucoup vu et entendu durant cette période de confinement. Vous étiez souvent sur les plateaux de télévision et en radio pour parler, pour le suivi finalement de cette maladie qu'on connaît peu parce qu'elle est arrivée, même si elle ressemble à d'autres maladies de coronavirus. Ça a été quand même, évidemment, quelque chose d'assez détonnant. Et voilà, on a vu toute cette série de victimes de ce coronavirus. On est à presque 30 000 morts en France.
En fait, ça a été un raz-de-marée, hein. Ça a été un raz-de-marée, et pas seulement médical, ça a été un raz-de-marée sociétal, en fait. Parce que c'est la première fois que nos sociétés, presque partout dans le monde, pas partout, ont choisi une mesure absolument extrême pour contenir un problème médical, une mesure que tout le monde connaît maintenant, le confinement.
Ouais.
Ce mot va rester dans nos mémoires, nos cœurs, ancré, gravé dans le marbre. Et on n'avait jamais vu ça, en fait, parce que des pandémies, on en a déjà évidemment connues, et d'ailleurs des pandémies bien plus meurtrières que celles-là, qui se sont traduites par des dizaines de millions de morts. Dans les 100 dernières années, il y a eu 4 pandémies relativement importantes, mais pour la première fois, on a choisi la vie contre l'économie. Alors, c'est intéressant, parce qu'on est justement dans un monde marchand, plus que jamais, dans un monde qui est mondialisé, où chaque chose a une valeur. Si vous n'avez pas une valeur, que vous soyez un objet ou un homme ou une femme, vous n'êtes rien dans ce monde.
Ça veut dire que finalement, est-ce que le monde entier a bien réagi?
Oui.
Parce que finalement, ce confinement,
oui,
c'était le traitement.
Oui, oui. Évidemment, moi, comme médecin, je ne peux être que très heureux, très touché même,
ouais,
fondamentalement touché, puisque mon ADN, moi, c'est sauver la vie. Hein.
Ouais.
Et donc, je suis bouleversé par ce qui vient de se passer. Alors, à bien des égards, hein, évidemment, je ne fais pas l'impasse mentale, affective des 30 000 morts en France et des 500 000 morts dans le monde, bien entendu. Hein, rien n'apaisera ça. Mais quand même très touché comme médecin qu'on ait choisi cette voie-là, dont on savait qu'elle serait extrêmement difficile, parce qu'il y a l'après, il y a l'après.
En même temps, on avait très peur de ce coronavirus. Ça donnait le sentiment, même au tout début du confinement, on avait très peur d'aller acheter son pain, sa baguette. On avait l'impression qu'on avait une espèce de fantôme qui allait vous attraper, comme si ce virus était à chaque coin de rue.
Oui, il y a quand même un grand paradoxe, je trouve, dans ce qui vient de se passer, parce que les chiffres, on les a connus assez tôt, ils sont confirmés. La mortalité de ce virus, elle n'est pas très forte, en fait, si je m'exprime de façon clinique. Hein, je mets de côté l'humain, on va dire,
et je m'exprime autour de nous,
voilà, le scientifique.
De nombreux cas, bien sûr.
La mortalité globale, elle est de l'ordre de 0,5%. Et donc, on pourrait dire, 0,5%, ce n'est pas très important, mais attention, hein, c'est d'abord 0,5% parce qu'on a fait le confinement. Donc maintenant, s'il faut monter cette mortalité à 1,5, par exemple, 1,5, en France, c'est 600 000 morts. Et donc, ça aurait été un coût humain intolérable. C'est d'autant que ça aurait touché nos personnes les plus fragiles, massivement. Et que donc, on a voulu aussi protéger nos anciens. Ça, c'est aussi une leçon. Alors, avec toutes les carences, là encore, hein, je sais à quel point les EHPAD ont payé le prix très, très fort,
ouais,
sur cette crise.
On n'a pas justement trop dit... Au tout début, avant même de prendre ces grandes mesures de confinement, on n'a pas trop dit, finalement, ça ne touche que les personnes très âgées, comme si, finalement, on pouvait presque se satisfaire de ce mauvais destin, que ça ne touche que les personnes âgées.
Bah, ça a même été dit par des gens qui sont dans les personnes dites âgées. Alors, je ne sais pas comment on va les définir. Quand j'ai commencé mes études de médecine, à plus de 60 ans, vous étiez une personne âgée. Maintenant, c'est plutôt 80. J'ai eu un débat récemment, malheureusement trop court, avec notre philosophe Comte Sponville, qui a fait une tribune retentissante en disant « Laissez-nous tranquilles, il est dans les personnes dites âgées. » Il n'est pas âgé, il a mon âge, hein, mais on est dedans. Et qui a dit, écoutez, laissez-nous tranquilles, on est libre de choisir si on veut mourir ou non, vous avez confiné toute la société, vous allez léguer à nos enfants les dettes, laissez-nous tranquilles. Oui, alors il y a une chose peut-être qu'il ne faudra pas qu'on oublie dans nos débats à venir, c'est l'humilité et la modestie, parce que nous avons appris, hein, le plus grand expert du coronavirus dans le monde a 4 mois d'expérience. Et donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est, faut me l'accorder d'emblée, c'est à l'instant T. Donc oui, je vais tenir des propos qui ne sont pas les mêmes que j'ai tenus il y a 4 mois, par exemple.
Ouais. Mais ça, c'est normal. D'ailleurs. Beaucoup de médecins se disent, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais finalement, on était dans la grande inconnue et on est dans une médecine du jour après jour, quoi, finalement.
Il y a plusieurs éléments, et cette crise du coronavirus fera qu'on en tire beaucoup de leçons, pas seulement scientifiques et médicales, sociétales, philosophiques, éthiques. Et d'ailleurs, les médecins vont disparaître des plateaux de télé et des radios, et c'est une bonne chose, ça veut dire que ça va mieux. Il y a eu plusieurs choses qui sont importantes. La première, c'est le déni. Et le déni, il faut bien comprendre qu'il est normal, il est choquant, mais il est normal, parce que quand on n'a pas vécu quelque chose, l'expérience mémorielle, alors évidemment sur cette radio, ça a une résonance particulièrement importante, et d'autres avant moi, comme Elie Wiesel, avaient bien dit que ce qui comptait, ce n'était pas la connaissance, c'était l'expérience. Eh bien, c'est très très vrai. Alors à ma toute petite échelle, sans aucune comparaison évidemment qui serait juste totalement inapproprié. Lorsqu'on n'a pas connu quelque chose, lorsqu'on n'a pas vécu, on a un déni qui est normal. En Europe, depuis 70 ans, on va dire un peu plus de 50 ans, on n'a pas connu de pandémie de cette nature. Et donc, comme on n'a pas l'expérience mémorielle, ce qui était en Asie, elle est restée en Asie. C'est d'autant que les récentes, le H1N1, le MERS, on nous a cassé les oreilles pendant des semaines, des mois, puis finalement, elles n'ont pas arrivé. D'ailleurs, on a beaucoup reproché à une ministre de la Santé d'avoir accumulé des centaines de millions de stocks de vaccins qui n'ont pas servi. Et ce qui fait que, quand ça commence...
Ça veut dire qu'il faut être plus prévenant, malgré tout. Est-ce qu'il vaut mieux être trop prévenant que pas assez ou pas? Est-ce que ça peut être la conclusion de
Ça va être une des conclusions, puis il va falloir qu'on ait l'esprit un peu plus large, qu'on regarde le monde et pas simplement notre petit environnement. Quand la Chine a commencé à avoir des morts, on a dit c'est loin, on s'en moque, dédain. Plus inquiétant, quand l'épidémie était en Italie, à notre porte, moi je me souviens très bien sur les plateaux de télé, j'en fais partie, on disait, on expliquait pourquoi l'Italie avait des morts. Ouais. Leurs hôpitaux, c'est moins bien, ils sont plus âgés. On n'a rien vu, on n'a rien compris.
Non seulement on n'a rien vu, mais il y avait aussi cette méconnaissance de ce virus. Parce qu'on dit aussi aujourd'hui qu'on a beaucoup trop intubé, on a beaucoup trop mis en coma artificiel. Je ne sais pas si c'est votre avis, mais en tout cas, on est en train de se dire que finalement, on était obligé d'agir avec nos moyens, avec ce qu'on pouvait avoir comme connaissance de la médecine, mais pas forcément la connaissance du virus.
Absolument. Alors, d'abord, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien en médecine. Nous avons derrière nous un amoncellement de connaissances, donc on se croit très savant, mais nous avons devant nous un gouffre de connaissances que nous n'avons pas. Et donc, on va rester modeste et humble, et on sait que jour après jour, nous allons apprendre. Et ce virus, en plus... nous a beaucoup surpris parce qu'il est quand même très différent des précédents, très très différent. On a vite réalisé qu'il était beaucoup plus contagieux, ça c'est clair. Mais par contre, ce qu'on ne savait pas, et c'est normal, c'est qu'il allait avoir des manifestations cliniques très particulières.
Ouais. Très très douloureuse. C'est ce qui était choquant, vous le dites à l'instant, c'est vraiment... Il nous a beaucoup étonnés ce virus. Il n'est pas comme les autres dans la mesure où il entraînait beaucoup de morts. Même si on meurt d'autres choses dans la vie de tous les jours, c'est vrai. Mais là, il entraînait des morts avec une souffrance terrible, cette suffocation, ces poumons très malades, c'est ces gens qui ne respiraient plus. C'est-à-dire se dire qu'on va mourir en manquant de respiration, c'est encore plus grave que la mort elle-même.
Oui. Quoi. Alors paradoxalement, sur la respiration, il y a un point très très particulier qu'on ne connaissait pas. C'est qu'on a vu arriver des patients sur leurs deux jambes, qui en fait se plaignaient pas de grand-chose, qui même vous disaient « non, moi je respire très bien ». Et quand vous faisiez les examens, en fait, ils avaient un taux d'oxygène dans le sang très bas. Ouais. Une sorte d'euphorie tout à fait incompréhensible. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a vu fleurir des thromboses, des embolies, en particulier pulmonaires. Beaucoup de patients sont morts d'embolies pulmonaires. La troisième chose, c'est qu'on a un peu réappris les modes de réanimation. On ne fera pas le détail ici et on ne les réanime pas de la même façon. Donc, oui, on a appris au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je voudrais faire passer un message, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les actes thérapeutiques ont beaucoup progressé pendant cette pandémie. Les réanimateurs, les infectiologues, les médecins généralistes, oui, ont beaucoup appris et on s'est beaucoup occupé de ce Covid-19. Le public ne doit pas croire qu'on n'a rien fait. Non.
Je ne pense pas que le public pense une chose pareille. On a tellement vu ces soignants se mobiliser de toutes leurs forces pour face à cette urgence vitale. Je pense que personne ici ne peut contester l'implication des médecins, et notamment dans les services de réanimation, parce qu'il y avait... Il y avait cette volonté de survie, de faire survivre ces malades qui arrivaient, comme vous dites, au départ sur leurs deux jambes, mais qui très vite pouvaient basculer dans une autre sphère.
Complètement. Alors j'ai insisté sur ce point parce que parfois les patients, les familles sont tristes, en colère, parce qu'on n'a pas de traitement direct contre la bactérie ou le virus. Mais ça n'est pas parce qu'on n'a pas un traitement direct qu'on ne sait rien. C'est ça le message que je voudrais faire passer. La médecine, ça n'est pas que donner... Un antibiotique, un antiviral, la médecine, c'est
certains
beaucoup plus riche que
moi,
ça.
J'ai des familles donc, qui sont endeuillées, et j'en connais autour de moi, qui sont très, en fait, qui se disent pourquoi on a dit restez chez vous avec du Doliprane et venez quand ce sera grave, alors que le patient lui-même ne sait pas à quel moment c'est grave ou pas grave. Il n'est pas en capacité, contrairement à un médecin, de pouvoir faire le diagnostic de la gravité.
Il y a plusieurs éléments, je ne sais pas si ce sont des réponses, en tout cas d'éclaircissement. Éclaircissement. Le premier, c'est que n'oublions pas qu'on a appris en cours de route et qu'on ne savait pas qu'il y avait comme ça cette baisse de la quantité d'oxygène dans le sang majeur alors que les patients allaient bien. Donc on a appris avec les scanners, on a appris en mesurant l'oxygène dans le sang, on a appris pour les embolies pulmonaires. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, notre crainte en Île-de-France et dans le Grand Est, ça a été que les hôpitaux soit débordé, que les réanimations soient débordées. Et qu'on a été obligé d'agir dans l'urgence. Alors on peut revenir sur pourquoi on a agi dans l'urgence. Est-ce qu'on n'a pas eu du retard? Ça, à mon avis, on a eu du retard au confinement. Ça, j'en suis intimement convaincu. Mais si on avait dit à tous les patients Covid, en particulier en Île-de-France et dans le Grand Est, venez à l'hôpital, nous n'aurions pas pu les prendre en charge. Ouais. C'était 80 000 cas par jour.
Ouais, c'est vrai.
Et il fallait absolument qu'on diminue la vague de façon à pouvoir s'occuper de ses patients. Il y a un moment, on s'occupait plus que de Covid dans les hôpitaux.
C'était ça la grande difficulté finalement face à la maladie, face à la Covid.
C'est clair.
Parce que c'était est-ce qu'on était en capacité de pouvoir accueillir tout patient? Non, ça n'était pas possible. Donc finalement, il y avait forcément, en tout cas au début, et heureusement que ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que là, on voit que les derniers chiffres, c'est 87 décès supplémentaires en un jour, moins de 1000 malades en réanimation. Ça veut dire qu'on est très, très loin de cette hystérie qu'ont dû vivre le monde hospitalier.
Ben, ça a été, en réanimation, ça a été plus de 7000 patients Covid. Et pour vous donner une idée, nous avons en France normalement 5000 lits de réanimation. Et là, il s'est produit des choses que je vais qualifier d'exceptionnelles, c'est que les services de réanimation ont poussé les murs. On poussait les murs en quelques jours, en quelques semaines. On a doublé les capacités de réanimation en Île-de-France ou dans le Grand Est. Mais sinon, il y aurait eu des milliers de morts supplémentaires. Avec ça, oui, bien sûr qu'il va falloir tirer des leçons. Bien sûr que ça n'a pas été parfait. Et bien sûr que des choses vont devoir être revues dans des domaines comme un plan sanitaire... Un plan pandémie, mais pas d'ailleurs que pour les virus ou les bactéries. Hein. Les plans pandémie ou les plans sanitaires, c'est aussi par exemple pour les as sanitaires écologiques, par exemple. Oui, il faut plus de lits de réanimation. Oui, on a manqué de masques. Oui, on a manqué de tests. Oui, il n'y a pas d'Europe du soin. Oui, les EHPAD ont été abandonnés.
On va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec une invitée par téléphone, Daphna Mouchdi, qui, elle, a créé une société pour l'aide à domicile, et notamment, évidemment, des personnes âgées. Évidemment que la question des EHPAD, ça a été quelque chose de catastrophique, avec un bilan de 10 384 morts à aujourd'hui.
Un tiers des morts, c'est dans les EHPAD, et c'est pas fini.
Est-ce que ça voudrait dire que les EHPAD doivent être médicalisés ?
Alors en fait, on a eu avec les EHPAD un problème que je qualifierais de dramatique, parce qu'ils ont payé le prix fort, parce qu'ils avaient toutes les raisons d'accumuler les morts. Premièrement, les EHPAD, c'était déjà, avant la crise sanitaire, loin d'être parfait. manque de matériel, manque de soignants, des auxiliaires de vie en sous-effectif, pour des personnes, nos grands-pères, nos grands-mères, ou nos pères, nos mères, qui justement sont ceux et celles qui ont besoin le plus de soins. Comment faites-vous au quotidien quand vous avez une personne à qui il faut donner à manger, qu'il faut nurser, qu'il faut doucher, et à qui il faut parler, à qui il faut donner du temps? Parce que dans une EHPAD, c'est pas juste je mange, je dors. C'est si vous n'avez pas un câlin dans la journée, une main sur la joue, une main sur la main, quelques mots, bon, pourquoi vivre? Dans les EHPAD, ce qui vous permet d'avoir l'envie de vivre pour ces personnes, c'est le lien.
Donner le goût de la vie. Quoi.
Oui, c'est le lien. Et on sait pertinemment que dès qu'il n'y a plus ce lien humain, ben, la personne n'a plus envie de vivre et elle va mourir. Là-dessus, vous rajoutez la Covid-19 et drame absolu pour moi, vous rajoutez l'interdiction des visites. Et la visite du fils, de la fille, de qui vous voulez. C'est l'instant où quelqu'un va venir, va apporter le repas de l'extérieur. Le seul qui aura, et c'est pas faire un jour aux EHPAD, ils n'ont pas les moyens, le seul qui aura de la couleur, du goût, puis qui va rappeler quelque chose. C'est le moment où quelqu'un aura le temps de faire quelques pas. C'est le moment où quelqu'un aura le temps, quelqu'un proche, de dire quelques mots, de regarder dans les yeux en disant « je t'aime ». C'est le moment ultime où une main va être posée sur une main. Je tiens beaucoup, moi, ce contact de la peau contre la peau. Si vous enlevez ça, enlevez même le Covid, eh bien vous mourrez. Et donc, oui, les EHPAD ont été abandonnées parce qu'elles n'étaient pas prêtes et que la crise sanitaire dessus rendait impossible de faire quoi
même
que ce
si
soit.
Même si on se
correct.
Disait depuis le départ que ça toucherait cette partie-là de la population.
Alors, même si... Alors, on n'oublie pas qu'on a appris, hein, ne pas que d'habitude, les virus, ça touche les enfants. Mmh. Et que pourquoi on a fermé les écoles au début? Parce qu'on a dit, ah, un virus, c'est les enfants. Et non, on n'avait pas prévu. Même si on sait, bien entendu, que la grippe, ça tue les personnes âgées. On n'avait pas prévu du tout ça. À partir du moment où on bouclait les EHPAD, bah, il est clair que ça allait être un désastre. Je vais même aller plus loin, un carnage. Parce qu'en plus, quand vous avez une personne contaminée dans une EHPAD, en quelques jours, c'est toute l'EHPAD qui va être contaminée. On le sait, les études sont là maintenant. On a appris au fur et à mesure. C'est
pourtant,
une traînée de poudre.
Pourtant, celles et ceux qui entourent ces personnes dans ces EHPAD, elles connaissent les rouages de la transmission d'un virus.
Oui, mais quand vous avez eu une personne contaminée avant qu'on boucle l'EHPAD, parce que c'est ça qui s'est passé.
C'était vraiment au début. Hein,
bien sûr, l'épidémie, nous, on a confiné énormes. Le pays trop tard. Hein. On a perdu, allez, on va dire, probablement 2 semaines qui auraient été...
Gagnantes.
Extrêmement importantes. Mm-hmm. Et c'est ce qui a permis à des pays comme l'Allemagne, les pays de l'Est et d'autres d'avoir de bien meilleurs résultats que nous.
Y compris Israël ou Maroc, d'ailleurs.
Y compris Israël et Maroc, même si, dans ces deux pays... on voit une petite résurgence qui, j'espère, ne va pas augmenter. Et donc, à partir du moment où vous aviez un résident contaminé, c'était la traînée de poudre. Puis un autre problème, les auxiliaires de vie, pas de moyens, pas de masque. Elles rentraient, elles, parce que c'est souvent des femmes,
elles ont leur
elles
vie,
rentraient chez elles, elles prenaient le métro. Et donc, ces auxiliaires de vie, pour celles qui ont été contaminées après, et ce n'est pas de leur faute, parce qu'elles n'avaient pas les moyens. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de moyens. À partir du moment où on ne leur donnait pas des moyens, qu'elles étaient contaminées chez eux, chez elles, bah quand elles revenaient, évidemment qu'elles contaminaient. Et souvenez-vous qu'au début, on a dit les masques, c'est pour l'hôpital. Un drame absolu. Moi, j'avais dit il y a 3 mois de ça, quand les EHPAD ont été isolés, j'avais dit à l'époque, c'est vraiment une mesure que je n'ai pas aimée, ça. Et j'avais dit, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je le pense toujours. Et qu'il fallait en fait qu'il y ait un référent de la famille, un seul, à qui on donnerait les moyens de venir à l'EHPAD quand il peut, une fois par jour, une fois par semaine, 2 fois par semaine, avec des moyens de protection. Une blouse, un masque, pour lui et le résident. Ça n'a pas été fait, et de toute façon, on n'avait même pas les moyens de leur donner ça. Donc c'est vrai que les EHPAD, pour moi, c'est un des drames, et on va devoir quand même réfléchir à ce qu'est la place de nos anciens dans la société. Hein, est-ce qu'on veut continuer à les parquer dans des EHPAD? Est-ce que ces EHPAD ont des moyens? Combien ça coûte? Parce que c'est bien beau tout ce que je dis, mais quand on voit le coût pour mettre son père et sa mère dans une EHPAD, Il y a peu de gens qui peuvent avoir des EHPAD de qualité. Ça coûte mais une fortune. Une fortune. Il y a peu de gens, en fait, qui peuvent mettre leur papa-maman dans un établissement de grande qualité. Très peu de gens. Où est-ce qu'on va les garder, les remettre à la maison? Est-ce qu'on va plutôt donner des moyens sanitaires pour qu'on puisse garder papa-maman chez soi, avec des vrais moyens, des vrais auxiliaires qui ont été formés, viennent régulièrement et qu'on peut payer convenablement?
Vous me faites la transition avec mon invité par téléphone. Je ne sais pas si on peut l'avoir en ligne tout de suite. Avec Daphna Mouchnik. Bonjour Daphna.
Bonjour Karen.
Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes une grande spécialiste du service d'aide à domicile puisque vous avez créé Logivité pour venir en aide à domicile des personnes âgées à Paris. Et vous avez écrit un livre alors que vous étiez en pleine ébullition, parce que j'imagine que ça a dû être quelque chose d'encore plus difficile que d'habitude, que d'aller au domicile de ces personnes âgées, parce qu'il y avait, comme vient de le dire le professeur Gilbert Deray, toute cette attirail qu'il fallait avoir pour se protéger et protéger nos personnes âgées quand les auxiliaires de vie allaient chez elles. Et vous avez donc écrit un livre pour dire, qui s'appelle Première ligne, qui va bientôt sortir chez Michelon. Non, pas, je ne sais pas si c'est chez Michelon, mais en tout cas...
Chez Faux.
Voilà, chez Faux, exactement. Et vous avez eu envie d'écrire pour raconter, mais dès maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, pour une urgence
d'écrire. Ouais. Alors, effectivement, je n'ai pas eu tout le temps d'écrire pendant toute la durée du confinement. On a été submergés, ce que disait le professeur Deray, sur les difficultés à trouver le matériel pour protéger les salariés, pour qu'elles-mêmes puissent se rendre auprès de gens qui ne pouvaient pas se passer de leurs interventions. Les services d'aide à domicile, ils interviennent pour aider une personne à se lever, à se laver, à manger, à réaliser les courses, à préparer le repas. Donc c'était vraiment des interventions indispensables à la vie des gens. Mmh. Et pour autant, comme ça a été dit, on n'a pas du tout pensé dans un premier temps à nous équiper. Et donc tout a été bataille. Avoir des places... à l'école, pour autant, ça avait été pensé par nos décideurs que nous serions prioritaires pour les places à l'école pour pouvoir travailler. Comme les services d'aide à domicile, comme les métiers de l'aide à domicile sont mal connus, ça a été aussi, il a fallu expliquer à l'éducation nationale qui nous étions. On n'a pas eu d'aide pour loger les professionnels au plus près de leurs interventions. On n'a pas eu d'aide pour qu'elles aient accès à des taxis. Elles ont effectivement dû prendre les transports en commun. Enfin, voilà. Donc, du coup, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, Karen, on avait peur d'aller chercher le pain et nos professionnels étaient pour autant courageux.
Ils étaient en première ligne, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on... qu'on les applaudissait chaque soir, et il faut effectivement mettre dans tous ceux et celles qu'on applaudissait les aides à domicile, parce que c'est, professeur Gilbert Deray, vous pouvez le dire, c'est une profession aujourd'hui encore plus importante qu'hier, on le sait très bien, maintenir les personnes âgées à domicile avec ces aides à domicile qualifiées, c'est très important.
D'autant qu'elles ont été, elles avaient un rôle de digue de l'hôpital, c'est-à-dire qu'il fallait à chaque fois que c'était possible apporter soutien à domicile aux personnes pour que elles n'aient pas besoin et que leur état de santé ne se dégrade pas et qu'elles n'aient pas besoin d'être hospitalisées pour d'autres choses. Elles ont été indispensables dans la gestion de cette crise.
Elles
sont pour autant les grandes oubliées. Pardon.
Je vais me permettre d'ajouter que en dehors même de la crise du Covid-19. Qui évidemment a été un révélateur en fait, hein. c'est un papier carbone, les aides à domicile, elles sont absolument cruciales et elles sont totalement sous-évaluées pour ce qui est de leur importance et de leur financement. Il faut bien voir que dans les hôpitaux, sans ces aides à domicile, et c'est déjà bien difficile, on ne s'en sortirait pas, parce que renvoyer par exemple un patient à la maison, s'il n'y a pas d'aide à domicile, le plus souvent c'est impossible. Et comme en plus il n'y a pas de structure d'aval intermédiaire, c'est-à-dire d'endroits où on pourrait mettre nos patients, vous êtes absolument indispensable. Et en dehors même de l'aspect, je dirais, personnes âgées, ces aides à domicile, elles sont absolument cruciales. Il va falloir les amplifier.
Et on a travaillé main dans la main avec les assistantes sociales des hôpitaux, dans le cadre d'ailleurs de ces retours de malades du Covid qui pouvaient rentrer chez eux parce que vous les aviez sauvés, mais pour autant ils étaient encore très affaiblis par la maladie et ils avaient besoin de soutien d'ailleurs quel que soit leur âge. Et donc on a travaillé les services d'aide à domicile et les services hospitaliers main dans la main dans le cadre de ces retours pour apporter soutien et assistance pendant toute la période nécessaire aux gens pour qu'ils se rétablissent. Donc, si vous voulez, en fait, ce silence qu'il y a eu autour du travail, alors pas de tous, mais quand même, on n'a pas beaucoup entendu parler du travail des services d'aide à domicile, a fait que quelques jours avant la fin du déconfinement, m'a pris cette nécessité de témoigner de l'engagement et même de l'abnégation. C'est dommage d'ailleurs de devoir parler de professionnels en ces termes, mais parce qu'on ne devrait pas faire son métier dans l'abnégation, on devrait le faire dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas encore.
Vous le dites, Daphna, dans votre livre, les services d'aide et d'accompagnement à domicile ont pris soin pour la nation de tous les fragiles isolés.
Oui, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et voilà, j'avais envie de mettre un gros coup de projecteur sur ces professionnels. Effectivement, vous disiez, professeur Doré, il va falloir repenser le soutien et l'aide à domicile dans notre pays, repenser les modes de financement pour proposer un accompagnement de qualité. Et moi, je me suis dit, la meilleure façon de le faire comprendre, c'est d'embarquer les lecteurs avec nous dans notre quotidien pour qu'ils comprennent dans quelle mesure on a réussi à faire quand même des choses incroyables avec trois bouts de ficelle.
Vous dites avec discrétion et gentillesse qu'on n'en a pas beaucoup parlé. En fait, la réalité, c'est qu'on n'en a pas du tout parlé. C'est ça, oui. La réalité. Et il va falloir qu'on reconsidère nos priorités. Alors, j'espère que le monde d'après existe au moins partiellement, j'en suis pas convaincu. Mais des acteurs de première ligne... En fait, on a beaucoup parlé du monde hospitalier parce qu'on a eu peur. Et qu'on a mis en avant les réanimations et les hôpitaux parce que c'était plus facile à expliquer. La courbe des réanimations qui ne fait pas submerger, ça, tout le monde pouvait comprendre. Et on a, dans cette démonstration, complètement oublié le monde extérieur, qui était, lui, en première ligne réellement. Nous, on n'a pas été en première ligne, on a été en deuxième ligne. Et ce monde extérieur, ce sont tous les acteurs qui ont permis au pays de fonctionner et à chacun d'entre nous de vivre.
Ce sont les caissières dans les supermarchés,
ce sont les facteurs, ce sont les éboueurs, ce sont les enseignants, ce sont les policiers. Et vous, dans votre rôle, qui avez permis aux patients, absolument, qui avez permis aux patients de retourner à leur domicile dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est la première ligne. Le temps, j'espère, va être maintenant celui de la réflexion et de l'analyse. On n'était pas du tout dans la réflexion et l'analyse, on était dans la gestion de l'aigu. Donc les mois qui viennent doivent servir à la réflexion pour savoir où ont été nos carences, qu'est-ce qui a été mal fait, qu'est-ce qui a été bien fait, pour que chaque acteur puisse être remis à sa juste place. Et puis, personne n'agit indépendamment. Nous ne sommes qu'une grande chaîne, tous liés. On a souligné hôpital et vos soins, mais après tout, moi, sans la caissière qui me faisait manger, je ne pouvais pas faire grand-chose. Hein. Et donc, cette solidarité dont on a parlé, c'est en fait une grande chaîne de solidarité, et il va falloir qu'on essaye de voir comment on la maintienne. D'ailleurs, sans doute pas qu'au niveau national, ça c'est encore une autre question. Donc je pense que votre témoignage sera une pierre apportée à cette réflexion.
Merci infiniment, Daphna, d'être intervenue dans l'émission. D'ailleurs, j'aurai l'occasion peut-être d'en parler un peu plus longuement avec vous. Mais c'était important, justement, de parler de cet après, en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer pour demain. Parce que c'est ça tout l'enjeu de cette maîtrise de cette maladie liée au coronavirus. C'est comment faire demain, parce que on va en parler dans un instant avec vous, professeur Deray. Est-ce qu'on est à l'abri ou pas d'une deuxième vague ? Non, ça, c'est la grande question. Et puis aussi, ce que j'aimerais dire avant la fin de cette émission, c'est toutes ces personnes qui ont été dans le coma artificiel, qui ont eu cette maladie, qui ont eu une asthénie, une fatigue énorme, presque incompréhensible, il y a tout ça à gérer, en fait. Il y a en plus, non seulement la Covid elle-même, mais il y a aussi l'après-Covid.
Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, on pourrait y passer la journée, parce qu'il va falloir qu'on discute de la Covid, mais aussi de ce que la Covid a révélé. Et puis, il va falloir qu'on parle de l'Hexagone, mais aussi de l'Europe et du monde. Donc, évidemment, on ne va pas pouvoir tout faire, donc je vais répondre juste à votre question pour l'instant. La Covid, c'est beaucoup de gens qui ont été donc touchés. Alors, c'est là, parce que le D de Covid, c'est disease, c'est maladie. Donc, on dit le virus, mais la Covid. Et oui, il va falloir qu'on s'occupe aussi de la suite de la Covid sous beaucoup d'angles. Alors, le premier angle, c'est les patients qui ont donc été malades, qui ont été en particulier hospitalisés, plus ou moins graves. Et puis, on va différencier ceux en réanimation et les autres. Alors, à partir du moment où vous passez en réanimation, avec en plus des réanimations qui ont été longues, 2, 3, 4 semaines, ça veut dire que vous avez besoin d'une réhabilitation très importante.
On doit tout réapprendre, parce que le cerveau a...
Alors, il y a plusieurs niveaux. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une rééducation à faire physique, pour commencer. 3 à 4 semaines de réanimation, pour la masse musculaire, c'est juste une tornade. Donc, il va y avoir des mois de rééducation. Ça, c'est le premier aspect. Puis, le deuxième aspect, c'est quels organes ont été touchés. Tous les organes peuvent être touchés. Et oui, le cerveau, qu'on a cru au début de l'avril, peut être touché. On sait maintenant que le virus passe dans le cerveau. On sait qu'il y a des accidents vasculaires cérébraux. On sait qu'il y a des thromboses. Et on se demande même s'il n'y a pas des pertes de fonction intellectuelle supérieure. Vous pouvez aussi avoir eu une insuffisance rénale. Quand vous êtes en réanimation, c'est extrêmement fréquent. Alors, quelles sont les séquelles? Le cœur.
C'est votre pratique quotidienne,
absolument.
C'est votre spécialité.
Voilà, je suis tombé dans le bain du coronavirus par hasard. Le cœur est touché chez 20% des patients. Donc, on va devoir se préoccuper maintenant, chez tous ces patients qui ont été, on va dire, et le poumon, bien entendu, gravement atteint, quelles sont les séquelles. Mais il y a d'autres dimensions qu'on n'avait pas imaginées. Parce qu'on a tendance à imaginer que quand on fait un syndrome X, bactérien ou infection générale, pas trop grave, il est passé, tout va bien. Et là, ce n'est pas tout à fait clair. Et on se pose des questions, en particulier sur des organes comme le poumon, le cœur et le rein. Pour le poumon, beaucoup de patients, en fait, n'ont pas été hospitalisés, n'ont pas eu d'évaluation, ils allaient plutôt bien. Or, on se demande s'ils n'ont pas quand même une atteinte pulmonaire, une fibrose pulmonaire, qui expliquerait pourquoi, à distance, ils ont une gêne respiratoire. Pareil pour la fonction rénale, pareil pour la fonction cardiaque. Donc oui, il va y avoir une dimension médicale importante. Il y a une autre dimension qui est en train d'apparaître. Beaucoup de patients, et ça fait l'objet d'ailleurs de publications sur les réseaux, disent « Mais moi, à distance, je ne vais pas bien. Ouais. Je suis fatigué.
Une fatigue énorme.
Je respire mal. Ouais. J'ai mal. » Ils ont appelé ça après J ou J, je ne sais plus combien, 21, 60, 120. Donc, j'ai un peu échangé avec ces patients. Et il n'est pas exclu que la Covid-19, effectivement, puisse cesser tel symptôme. Et enfin, on pourrait en parler longtemps. Attention, le confinement, ça s'appelle un choc traumatique majeur. Donc, il va y avoir le problème du stress post-traumatique qui est majeur obligatoirement. Donc, il va falloir qu'on ait des filières médicales organisées pour s'occuper de tous les patients, toutes les personnes, qu'elles aient ou non eu un test de Covid positif, qui disent « je ne vais pas bien ». Tout symptôme doit être pris en compte. Il faut qu'on puisse évaluer ces personnes dans des endroits qui savent faire, qu'on fasse le tri sur les organes qui ont été atteints et sur les syndromes post-traumatiques, et qu'on les prenne en charge. Et là, on a un vrai, vrai travail de fond à faire. Et je vais vous ajouter que...
Presque une espèce de groupe de parole qui pourrait être démultiplié avec des experts, avec des experts médicaux, mais aussi de toute psychologique.
Ça, c'est clair, ça va être multidisciplinaire. Ouais, il va y avoir le psychologue, le cardiologue, le néphrologue, etc., le neurologue. Attention, il ne faut surtout pas oublier qu'on va avoir besoin des patients et qu'il serait très, très souhaitable, et je crois que c'est déjà en route, j'en suis sûr même, que des associations de patients se constituent. Et les associations de patients sont extrêmement importantes pour relayer l'information et elles prennent vite un poids qui nous aide. N'oubliez pas que c'est comme ça dans toutes les maladies. Le HIV, par exemple, les associations de patients ont été cruciales pour mobiliser les pouvoirs publics, les médecins, obtenir de l'argent. Donc, ceux qui nous écoutent, allez-y.
Ils sont les premiers en première ligne.
Évidemment.
Pour pouvoir dire ce qu'ils ressentent.
Allez-y. Je vais vous ajouter que pendant ce confinement de 2 à 3 mois, beaucoup de personnes ont été touchées parce que fragiles. Je voudrais ici citer par exemple les femmes enceintes. Non pas que les femmes enceintes soient fragiles, mais quand vous soumettez une femme enceinte à un stress important pendant des semaines, les conséquences potentielles pour les enfants existent. Donc, il faut que les femmes enceintes aient aussi une tribune.
Ouais. Les enfants doivent avoir une tribune.
Oui, et ça
parce
a été...
que j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Une psychologue qui disait on a souvent dit aux enfants qu'ils étaient peut-être porteurs sains ou porteurs asymptomatiques et qu'ils pouvaient transmettre la maladie et donc la mort. Et c'était on leur faisait peser le poids d'une mort éventuelle d'un de leurs proches.
Absolument.
Ça, c'est très, très dur à supporter pour un enfant.
Absolument. Même si, à l'heure actuelle, on pense plutôt le contraire, ça ne change rien. Ils ont eu ça, ils ont eu le confinement, ils ont eu l'absence d'école. L'école, c'est un endroit où les enfants
se construisent.
Mm-hmm. Ils ont eu éventuellement des endroits avec de la violence verbale, physique. Ça aussi, hein.
Ouais.
Et donc, toutes ces évaluations vont devoir être faites. C'est aussi pour ça qu'il fallait rétablir l'école. Moi, j'étais favorable à ce qu'on rétablisse l'école. Et il va falloir qu'on aille regarder toutes ces... excusez-moi l'expression, mais en médecine, on appelle ça comme ça, des groupes à risque.
Ouais.
Et
ouais.
On pourrait soulever comme ça bien des problèmes, comme les patients psychiatriques, comme les filières psychiatriques qui ont été fermées. Enfin, il y a 1000 problèmes du post-Covid qui maintenant vont apparaître. Et qui vont émerger. Et là encore, je dis au pouvoir public, il faut qu'on se mobilise, on a besoin de vous. Hein. On a besoin de vous parce qu'on va avoir besoin de moyens pour ça.
On va vers la fin de l'émission. On va parler peut-être maintenant du déconfinement, de cette porte ouverte vers la fin de ce Covid, de ce virus. Est-ce qu'on a les gestes barrières qu'il faut? Est-ce qu'ils sont utiles jusqu'à quand? Jusqu'à quand devra-t-on porter le masque? Là, on n'en porte pas, par exemple, pour faire cette interview. Mais est-ce qu'il faut l'emporter partout, dans la rue, pour aller se faire son petit marché, se nettoyer régulièrement les mains? Est-ce que ce sont des gestes qui vont devoir perdurer?
Oui, au-delà du Covid-19. Premièrement, pour l'instant, ça va bien en Europe. La première vague est clairement contenue. L'épidémie est contenue. Il reste... des foyers résiduels, ce qu'on appelle maintenant les fameux clusters, partout en Europe. On sait qu'en France, il y en a des dizaines. Ça ne veut pas dire que l'épidémie est là, ça veut dire qu'on la contient, ça veut dire qu'on dépiste bien. Donc pour l'instant, pas de deuxième vague. Il est probable, j'ai l'impression, qu'on va passer l'été tranquille. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague quelque part en Europe, automne-hiver? On ne sait pas. Pas d'affirmation péremptoire, c'est tout à fait possible. L'expérience des pandémies antérieures nous fait penser que oui, mais... Le vrai débat, ça va être plutôt de savoir si on est prêt. Si on est prêt pour le déclenchement de cette deuxième vague, alors elle ne va pas monter. Alors on va la contrôler parce qu'on contrôlera les foyers épidémiques, parce qu'on isolera, parce qu'on fera des tests, parce qu'on aura des masques. Ensuite, pourquoi est-ce que je pense qu'il faut garder ces mesures? Ça va être un changement culturel. Après tout, premièrement, il y en aura une autre, hein, dans un an, dans deux ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas quand. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que tous les ans, on accepte 8 à 12 000 morts de la grippe?
Je suis entièrement d'accord.
C'est débile.
Y compris de la gastro-entérite.
Mais c'est complètement... des enfants, des...
On a toujours dit, lavez-vous les mains,
anciens,
lavez-vous les mains pour la grippe et la gastro-entérite. Ça ne se faisait pas.
Incroyable. Finalement. Pourquoi est-ce que dans le métro, ouais. on va chacun d'entre nous dans le métro avec 39 de fièvre, tout sans crachant? Bah, non. On va dans le métro avec un masque. On se lave les mains avec du gel hydroalcoolique. Donc oui, moi je suis très partisan de ça. Et pour l'instant, combien de temps va durer le déconfinement? Progressif, pas d'urgence. Il ne faut pas qu'on se précipite. On a bien fait le déconfinement. Je ne suis pas partisan d'une levée trop brutale. C'est bien ce qu'on fait là. Ah, on y va progressivement. Je suis juste inquiet. Et pour les personnes, les professionnels, qu'on n'a pas déconfiné vite, et je le regrette, mais voilà, ça me fait de la peine. Mais c'est comme ça qu'il fallait faire. Je pense aux restaurants, je pense aux hôtels et aux bars. Mais rien ne serait pire que des reconfinés. Donc, on est sur la bonne route.
Et on va en rester là en attendant la prochaine émission avec vous, professeur De Rey. Merci infiniment d'être venu pour nous parler de cette maladie qu'on a vécue collectivement. Ça a été vraiment quelque chose de tous ensemble. Et tous ensemble, on se déconfine pour nous protéger les uns et les autres. Merci à vous et merci à tous. Je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.